Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Quatre heures plus tard, on s'annonce chez les hommes de la forêt, dit les lutins. Explication, décision, tout ira très vite. Willibert prend la tête de 7 volontaires, que des célibataires. 7 plus elle, plus moi, plus le maréchal Ferrand, c'est une troupe de 10 traqueurs qui quittent le camp en fin de journée. On a des vivres pour 5 jours, vous dire si on est optimiste. Première étape, le campement où a eu lieu le drame. Sur place, les chasseurs de la troupe cherchent les pistes, soit de l'arrivée des méchants, soit de leur départ après l'attaque. Ça fait 4 jours d'écoulés, mais comme il n'a pas plu et qu'on ne peut pas dire qu'il y ait du trafic dans ce coin, les traces peuvent être encore visibles. Ils en trouvent. On les suit pendant une heure, ensuite le terrain devient plus rocailleux et on les perd. Comme on a quand même une direction générale, on va pousser plus avant. Pour rien laisser au hasard, 2 cavaliers descendront la rivière au cas où. Ils la suivront une heure et feront demi-tour s'ils ne trouvent rien. On avance en laissant des traces de notre passage. Ils nous rejoignent alors qu'on monte le camp pour la nuit. Ils ont suivi la rivière jusqu'à un gué et une ancienne voie romaine. Si les bandits venaient de l'autre rive, c'est là qu'ils auraient traversé. Après avoir étudié le sol sur les 2 rives, les traces visibles datent d'un certain temps. Rien de frais. Ça nous conforte pendant notre choix. Willibert donne les ordres pour la nuit et chacun chez soi fait dodo. Je m'endors en pensant que cette femme est bizarre. Elle te décapite un homme d'un coup de hache, a un port altier et gracieux, une voix très douce, du moins quand elle parle, parce que c'est une taiseuse. Le soleil se lève, nous aussi, on repart. On n'a pas marché une heure qu'on tombe sur une famille de bûcherons. Ils n'ont rien vu de bizarre dans le coin, mais avant hier, un ermite qui vivait dans les bois a dit avoir vu dans un vallon voisin des bergers avec un troupeau disparate. Il s'était caché et il les a observés. Il y avait chevaux, moutons, vaches, mules. Ça ne lui a pas paru très chrétien. Surtout que les bergers étaient habillés pas comme chez nous et qui parlaient une autre langue. Il nous indique le chemin pour aller dans ce vallon. 2 cavaliers sont envoyés en avant-garde avec une des filles du bûcheron en croupe pour les guider. Comme on a un cheval qui boite, on en profite pour faire les sabots de nos animaux. Une heure après, on se remet en selle. On ne sait pas bien si on est toujours dans le comté de Frédérune ou dans celui du voisin. Alors qu'on galope sur les traces de nos éclaireurs, on croise la petite bûcheronne qui rentre chez elle en courant. D'après ce qu'elle dit, dans un quart d'heure, on est dans le vallon. Elle boit un coup de flotte, je lui donne un jaunet pour sa famille et la voilà repartie comme le vent. Elle n'est pas épaisse, mais elle court comme un lapin. Quand on a fait la jonction, il nous explique que oui, il y a bien un troupeau qui marche dans cette direction et que ça ne va pas être difficile de la suivre vu que les moutons qui donnent le rythme et que ça chie sans arrêt. C'est comme une limace, tu suis la traînée, alors on suit. Au coucher du soleil, les éclaireurs nous les annoncent devant nous à une lieue. Willibert les renvoie surveiller les mouvements du troupeau, on attaquera demain matin. C'est ce que l'on fait, le terrain nous est favorable. Les bêtes avancent dans une espèce de combe assez large, les chevaux pourront travailler. Willibert nous sépare en 2 groupes, chacun avance sur une crête. Les soi-disant bergers nous aperçoivent assez vite. Ils sont pris en tenaille, le troupeau commence à paniquer. 2 lèvent les mains pour se rendre, comme on ne comprend rien à ce qu'ils disent, dans le doute, ils sont cloués par des carreaux d'arbalète. Willibert a dit pas de quartier, ceux qui essayent de fuir sont systématiquement rattrapés et trucidés. Willibert en poursuit un qui a presque atteint les grands genêts où il sera à l'abri. Debout sur ses étriers, elle lance à Francisque qui finit sa course entre les omoplates du fuyard. Tout ça au galop. Si elle fait la soupe aussi bien qu'elle manie les armes, c'est une femme idéale. Les hostilités se calment vite. Résultat des courses, Deux ont réussi à fuir, les autres ont rejoint le Seigneur. Willibert et ses hommes crient victoire, mettent pied à terre pour détrousser les cadavres. Vers midi, nous avons fini d'enterrer sommairement les morts et presque regroupé le troupeau. Trois chevaux et quatre mules qu'on va ramener chez nous, on dira au premier paysan qu'on rencontre où sont les moutons, il se débrouillera. On va donner les deux vaches au bûcheron, ça nous fait un petit détour, mais j'ai insisté. Je ne suis pas très fier de notre massacre, alors je me donne bonne conscience. Je ne pense pas que cette tuerie va ressusciter Ada, mais si ça se sait, et ça se saura, ça va peut-être calmer d'éventuels pilleurs pour un certain temps. En chevauchant vers la maison, je laisse vagabonder mon esprit. Je suis au moins certain d'une chose, je ne serai jamais un grand guerrier, mais je crie très fort, ça calme ma trouille. Je ne peux déjà pas égorger un mouton, alors tuer de sang froid un homme, c'est pas dans ma nature. Un peu plus tard, je pense au sein de Willibert. J'ai toujours été attiré par les nichons des dames. Ce doit être un problème de nourrice, encore que je n'ai aucun souvenir de ces moments-là. Marguerite, avec qui je discutais de ce sujet, a émis l'hypothèse dont les tétés à trop grosses mamelles peuvent être traumatisantes. C'est là que je me prends une branche en pleine poire et me retrouve les quatre frères en l'air, à terre. Je m'étais endormi sur les seins à Willibert. Tout le monde se fout de ma gueule. Je remonte, on repart. J'ai le nez qui pisse le sang. On arrive enfin au château. Willibert et ses hommes repartiront demain pour leur village avec les deux chevaux pris aux bandits. Du pain cuit pendant la nuit et un tonneau de bière. Ce soir, notre bien-aimée reine profitera de notre victoire sur les mécréants pour faire visite nocturne aux écuries. Notre souveraine se sert de ses sorties nocturnes pour faire du social, m'a-t-elle expliqué un jour. Elle dit ça rapproche les gens et ça crée du lien social. Question chaleur humaine, elle n'a pas tort. Et puis, comme on dit dans la contrée, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Personnellement, je ne suis pas friand de ces réunions. Je pars me coucher pour reposer mon petit corps. La petite rousse qui officie au bain m'apporte un seau d'eau chaude et me fait toilette. Comme je m'étonne de ses attentions, elle m'annonce « Cadeau de la reine. La fatigue, les courbatures et ses petits seins ont raison de mon honneur. Je me dis « Eh merde !» et m'endors un téton en bouche. » Au réveil, je suis seul. Mon cadeau a du travail ailleurs. Elle doit traire la vache royale. En effet, sa gracieuseté veut du lait frais tous les matins. La maisonnée de la reine profite de cet avantage. Lait tiède pour démarrer la journée. Je fais un tour au bain pour me raser. Une fois par mois, c'est pas du luxe. Dans le château, il n'y a que les moines qui ont le matériel à barbe. Je vous passe les 6 mois qui suivent, rien à signaler. Des naissances, des morts, des histoires de corne-cul, la vraie vie, quoi. Comme vous ne connaissez pas les habitants du château, je ne vous donne pas de nom. Nous sommes un vendredi, jour du poisson. Et oui, certaines règles de l'Église sont arrivées jusqu'à nous. Très peu en vrai, on résiste, mais jusqu'à quand ? Mystère. À propos de poissons, une année, un évêque a décidé que les castors étaient des poissons. Genre de connerie qui arrange tout le monde, sauf les castors. Depuis, ils sont redevenus des mammifères, ce qui nous n'empêche pas d'en bouffer. Cette semaine, j'étais parti dans la région des Marais, chez les guernouilleurs, pour étudier la possibilité de construire un petit castel afin de sécuriser la frontière nord. Les incursions de barbares se multiplient ces derniers temps. Rassurez-vous, je n'avais pas la prétention de construire ce truc tout seul. Le moine qui sait lire m'accompagne, ainsi que le maître charpentier. C'est celui qui avait travaillé sur le moulin l'autre année. Alors on se connaît un peu, voyez. Disons que je coordonne plus ou moins l'opération. C'est pas une mince affaire. Le moine entasse les données, le maître charpentier fait les calculs et moi je recherche les ressources. Combien d'arbres? Dans quelle forêt? On prend les pierres où? Le forgeron pourra-t-il forger assez de clous? Combien de fer faudra-t-il lui fournir? Combien le village pourra-t-il donner d'hommes pour les travaux, etc., etc. Tout ça plus le reste. Pour ma vie personnelle, je gère au jour le jour. Je pourrais même dire que parfois c'est un peu flou. Comme guerrier, je suis minable, je fais beaucoup de bruit, ça trouble l'ennemi. Comme chasseur, pas très doué, c'est souvent le bordel dans ma tête, mais comme organisateur, je domine mon sujet. Un exemple pour forger les clous indispensables à la construction, j'ai obtenu qu'on démonte la herse pour récupérer le fer. De toute façon, elle n'a jamais fonctionné depuis l'accident qui a coûté la vie au fils de la reine. À ce sujet, la sainteté du fiston n'a jamais dépassé les limites du canton. L'Église n'a pas voulu en entendre parler. C'était pas une idée de l'évêque, donc sans intérêt. Tout ça pour vous dire que j'ai été très occupé ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est plus calme. Le projet de fort sur le marais est abandonné ou remis à plus tard pour des raisons hautement politiques qui me passent au-dessus de la tête. En fait, le seigneur du comté qui nous posait problème s'est fait imposer par le comte, son suzerain, l'établissement d'une congrégation de moines soldats, ce qui devrait ramener de l'inquiétude par chez lui. Nous, ça ne nous fait pas rire qu'à l'étau de l'église se resserre par le nord, et ça met une mauvaise ambiance. Personnellement, d'autres problèmes me sont tombés dessus. Jusqu'à dernièrement, sans filer le grand amour, mes rapports avec Marguerite étaient pour le moins sympathiques. Chacun y trouvait du bon. Mais allez savoir pourquoi, elle s'est mise dans la tête de me marier. Elle voudrait un foyer avec des enfants, etc., etc. J'en suis resté sur le cul. Il faut dire que je n'avais jamais envisagé que notre histoire prenne cette direction. J'étais dans le flou, alors j'ai consulté les druidesses. Comme elles ne sont pas confrontées à la maternité ni au mariage, je pensais qu'elles avaient du recul par rapport à ces choses. Elles ont pris le temps pour me tenir le discours suivant. Primo, c'était à moi de savoir ce que mon cœur voulait. Deuxio, est-ce que j'avais les moyens d'assurer une vie décente à une hypothétique famille? Tertio, d'après les astres et les bruits qui courent dans les comtés voisines, l'horizon s'assombrissait dangereusement. On parlait ici et là d'une catastrophe, d'une épidémie qui toucherait n'importe qui, n'importe quand. Alors, en gros et en détail, elle conseillait de ne pas prendre de décision pouvant hypothéquer l'avenir. Je m'en suis ouvert à Marguerite qui l'a très mal pris. Elle a décidé d'aller voir ailleurs si les hommes étaient moins cons qu'ici. J'en ai pris pour mon grade, elle m'a traité de tous les noms. Comme on n'a pas trouvé de terrain d'entente, tant pis pour moi. Elle ira voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Profitant du passage d'une troupe de saltimbanques, elle a pris la route avec une copine à elle surnommée La Bolette, une délurée de première. Elle n'était pas partie depuis 3 semaines qu'un grand malheur nous est tombé dessus. La maladie était aux frontières. C'est surtout les barbares de l'autre côté de la rivière qui ont morflé. Chez nous, on a eu quelques cas isolés. Faut dire qu'on avait pris des mesures drastiques. Le gué de Bertrand le Plotre était devenu infranchissable. D'une part, la rivière est restée en crue beaucoup plus longtemps que les autres années, et en plus, jour et nuit, des hommes d'armes tiraient à l'arbalète sur quiconque tentait la traversée. Les quelques morts qu'on a eus ont été brûlés, leurs maisons et les animaux aussi. Un peu simpliste, mais ça s'est révélé efficace. Et puis, comme on était dans l'inconnu, on s'est démerdé. Les moines ont prié pour justifier leur statut, mais on sentit bien que c'était par pure perte. Les druidesses ont réfléchi, mais n'ont rien trouvé de concluant. Petit à petit, la maladie s'est éteinte toute seule. Elle avait dû avoir son quota de mort. Je simplifie, hein, c'est la seule explication que les moines ont trouvée pour nous rassurer. Quand il y a un problème, tu payes en chair fraîche. Le tarif n'est pas défini à l'avance et tu ne sais même pas à qui tu payes. Vers le mois du Muguet, grosso modo, tout est rentré dans l'ordre. La vraie vie allait recommencer. C'est ce que l'on croit, les moines viennent juste de faire leur semis. Ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire, mais ça situe l'événement. Plutôt la nouvelle. Il paraîtrait que le moine fou et borgne est réapparu dans le secteur. Il évangéliserait à coups de fouet dans le comté d'en haut, au-dessus du marais. Tu deviens chrétien baptisé ou c'est 20 coups de fouet. Ça déplaît énormément à la baronne. Je résume sa pensée. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais on ne te fait pas changer d'avis à coups de pied dans le cul. Ça bouillonne dans les hautes sphères du château, nous les petits avec les pieds dans la boue comme les poules et les chiens, on sent les emmerdes. Et surtout, on ne nous demande pas notre avis. À force de bouillonner, ça a débordé. Après consultation de ceux qui savent, de ceux qui croient savoir et de ceux qui sont toujours d'accord, Sa Majesté a décidé. Ce moine est nuisible. Les nuisibles sont inutiles. Un nuisible doit être éradiqué de la surface de cette terre. On s'est fait expliquer ce que ça voulait dire, car éradiquer ne faisait pas partie de notre vocabulaire de base. C'est le moine qui sait lire et écrire qui avait soufflé à la reine ce mot savant. En gros et en détail, on doit tuer ce malfaisant. Il faut le trouver et le zigouiller. Une prime est offerte pour sa tête. Par chez nous, on n'est pas trop belliqueux, mais l'appât du gain, vous savez, ça crée des vocations. Trois équipes partent en chasse. Personnellement, je me serais volontiers tenu à l'écart de la fête, mais la baronne en a décidé autrement. Elle m'a chargé de faire le tour du comté pour annoncer en son nom l'ouverture de la chasse. J'ai le droit au plus beau cheval de son écurie, de l'argent, et de choisir mon compagnon. Je dis que je vais commencer ma tournée d'information chez les lutins et que je prendrai un compagnon chez eux. « Ou une compagne !» me dit perfidement sa gracieuseté. « Oh, c'est bas, c'est facile, ma reine, et ça me fait pas rire. Voilà, au moins, tu auras ri parce que, mon garçon, depuis le départ de Marguerite, tu tires plutôt la gueule. » Finemouche, elle avait bien vu, comme tout le château d'ailleurs, que je ne suis pas franchement de bonne humeur. Ça va faire bientôt 2 mois qu'elle est partie, et ça me travaille encore. Trêve de politesse, demain tu es parti et rappelle-toi l'ordre que j'ai donné, je le veux mort, sa tête exposée devant mon lit. Le lendemain, tout est normal, donc je quitte le château sous une pluie battante. Malgré ces conditions météo exécrables, j'avoue qu'à cheval avec une selle, on est plus confortable qu'à dos de mulet, même si la bête est sympathique. Le soir, j'arrive chez les hommes libres. Ce qui était un campement de fortune il y a encore 1 an est devenu un petit hameau. Une 15aine de huttes ont été construites, il y en a même en dur, assises en pierre, le reste en bois et un vrai toit en tuiles de châtaignier. Un trou pour faire cheminée et de rares ouvertures pour garder la chaleur. Celle du chef est entourée de massifs de fleurs, ça fait beau. C'est très élégant. Question population, ça bouge, ça part, ça arrive, mais au final, ça augmente. Le hameau s'organise. Si j'ai bien vu, aujourd'hui nous avons un forgeron, un menuisier charpentier, un meunier avec une petite meule à sang qui fait aussi la boulange, et 1 ou 2 métiers à tisser. Il y a même un qui vient d'arriver et qui est spécialiste du tannage de peau. Ça nous fait un lieu de vie en plus. Entre autres, l'installation d'une meule à sang est un grand événement. J'explique, la possession d'une meule induit la culture du seigle pour faire de la farine. Pour cultiver, il faut essarter, gagner sur la forêt, avoir une arrière pour travailler la terre, etc., etc. Pour installer cette meule, la baronne a donné autorisation sans impôt sur la farine. La meule est une réforme de la mine qui était devenue trop petite pour le travail demandé. Et elle arrivait jusque chez les charbonniers sur un chariot qui venait de faire le plein de charbon, et les lutins sont allés la chercher avec des bœufs du château pour la ramener ici. Toute une aventure, mais je m'égare. Je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire du hameau, mais pour lancer la chasse au moine fou. J'ai transmis les ordres de la baronne à Varin, qui a informé Willibert, qui a donné ordre à Purcell de monter des patrouilles de 3 hommes pour partir en chasse. Les patrouilles partiront demain à l'aube. Le soir tombe, il est l'heure de manger. Nous sommes invités par Varin, comme il dit, c'est lui qui régale. Il donne des ordres. Une table est dressée pour 10aine d'invités, que des notables. J'emploie par dessein le terme notable. Dans les fêtes, il n'y a pas plus de notables que de beurre en branche. Mais néanmoins, j'ai cru discerner chez les lutins un début de hiérarchie. Si vous voulez, la première fois que je les ai rencontrés, c'était anarchique et très égalitaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus organisé et certains sont plus égaux que d'autres. Il y a encore 1 an, une tablée, quand il y avait des invités, c'était au moins 20aine de personnes, sinon plus. Venez qui voulait, si tu avais du temps, tu amenais à boire ou un saucisson. Ça, c'était avant. Ce soir, c'est sur invitation. Ici, comme ailleurs, les temps changent. Au château, c'est moins voyant, puisqu'il existe une organisation hiérarchique depuis plus longtemps. Mais ça change aussi dans les détails. Par exemple, les moines se sont agrandis. Ils sont 1 de plus. Plus exactement, ils ont accueilli 1 moinillon. Le fils de Bouc, le paysan, qui a le troupeau de chèvres. Eh bien, le fiston a répondu à l'appel de Dieu. C'est comme ça que l'on dit qu'on veut faire classe. L'autre version dit qu'il ne supporterait plus les biquettes, que son père lui foutait sur la gueule, et surtout qu'il avait envie d'apprendre à lire et à écrire. Chez les moines, il s'instruit, en plus de faire tous les boulots de merde. Pour excuser l'exploitation du môme, les moines disent qu'il gagne sa pitance. Autre changement, sa sœur, qui est une belle luronne, remplace la maman au service pendant les festins. Pour faire le service chez la reine, il ne faut pas être trop farouche. La maman a été obligée de démissionner, elle avait planté un couteau dans la main d'un invité qui farfouillait sous sa robe. Ce genre de gentillesse est toléré, mais plus tard dans la soirée. Le geste était déplacé beaucoup trop tôt dans le repas. On n'avait pas encore serti les rots. Disons que ce monsieur manquait de délicatesse. Le couteau dans la main aurait pu passer, mais comme l'invité a gueulé au meurtre, elle lui a cassé un brou sur la tronche et c'est parti en couille. L'ambiance était cassée, rien de grave en vérité, mais le malotru s'avérait être un prélat haut placé en visite diplomatique. Tout ça pour vous dire que maman partie, la fifi est arrivée. Et d'après certains, on y gagne. Quoique Varin se soit excusé de la frugalité du repas, car on l'avait pris au dépourvu, c'est l'estomac plein que je me couche. Willibert m'a prêté sa case et a été couché chez son coquin du moment. Vous venez d'écouter « Jour à neige, jour à peine » sur Radio Bartas.